Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter. Merci de nous être fidèles chaque semaine avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein avec moi en studio. Dans un instant, le duel et le retour sur quelques-uns des temps forts de la semaine. Et puis le débat du week-end, puisqu'il faut s'y préparer. Quels sont les grands enjeux des élections régionales? Le scrutin aura lieu, vous le savez, les 20 et 27 juin prochains. Autre manière de présenter le calendrier, 18 mois après la crise des Gilets jaunes et à un an maintenant de l'élection présidentielle. Le président de la République d'ailleurs, Emmanuel Macron, qui décrit sa France dans le magazine Zadig, nous en parlions ici même samedi dernier, sa géographie personnelle sensible et ses déplacements des derniers jours ont pour vocation, dit le site de l'Élysée, de mettre en avant la richesse de nos territoires. Je mets le mot entre guillemets, il est important, région, territoire, une carte sensible de la France. Et la géographie est pourtant éminemment politique. Nous voulions en parler avec l'un de nos grands géographes. Il est directeur de la chaire Intelligence spatiale de l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Plusieurs de ses ouvrages font référence. Le dernier, L'humanité, un commencement, est paru récemment chez Odile Jacob. Jacques Lévy nous rejoindra dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va démarrer notamment ça.
D'abord, il faut relativiser et ne rien banaliser. Quand je dis relativiser, c'est pas grave de recevoir une gifle quand on va vers une foule et pour saluer, c'est l'imprévu, ça peut arriver à tout moment. Je pense que ça ne dit pas quelque chose de plus profond qu'un acte isolé, d'abord. Et il y a eu des moments de très forte tension dans notre pays, de violence, au moment de la crise des Gilets jaunes. La société n'est pas dans cet état-là aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut pas faire dire à cet acte autre chose qu'un acte isolé du fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui, dans la société, peuvent être violents à un moment donné ou à un autre.
Le président de la République qui était de nouveau interrogé, il minimisait l'événement, Natacha Polony. C'est assez étonnant la façon dont c'est évidemment un acte qu'on peut considérer gravissime, qui est éminemment symbolique, qui interroge la nature et la relation des citoyens ou d'un citoyen avec le chef de l'État. Et pourtant, Emmanuel Macron essaye de, non pas peut-être banaliser, mais en tout cas d'en diminuer la charge symbolique. Est-ce que vous comprenez pourquoi ?
Oui, ça, je pense que c'est assez évident que Emmanuel Macron doit avant tout, dans une stratégie qui est une stratégie de pré-présidentielle, laisser entendre que cet acte, en effet, ne représente pas un courant d'opinion et resterait la marque de quelqu'un qui aurait dérivé. En revanche, c'est à la fois compréhensible d'un point de vue de communication politique de la part d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a de la part de cet individu un acte qui, en effet, est un acte que la majorité des Français n'accomplirait pas du tout. C'est d'ailleurs assez frappant de regarder les réactions. De très nombreuses personnes sur les réseaux sociaux se sont réjouies, ont expliqué « mais moi aussi j'aurais eu envie de le faire », etc. Mais ils ne le font pas. Et en fait, ils ne l'auraient sans doute pas fait. C'est-à-dire que c'est toute la différence entre le fantasme et l'acte. Ce qui est une violence symbolique très forte, c'est le fait de passer à l'acte, justement, et donc de traduire cette colère qu'on sent dans le pays. La colère, elle existe chez beaucoup de gens, mais tout à coup, de ne plus avoir les limites qui sont le fondement même de la vie démocratique. La vie démocratique ne peut pas exister s'il n'y a pas, de la part de l'ensemble des citoyens, une retenue et l'idée que les pulsions, on ne se laisse pas aller à ces pulsions. Le problème est qu'aujourd'hui, nous sentons bien que nous sommes dans un moment de déstructuration de la société où l'ensemble de ces pulsions s'exprime de plus en plus, où se laisser aller, ce dépassement des limites est de plus en plus généralisé. Cet acte en est une marque supplémentaire. Le problème est que sans doute les politiques ont été les premiers à, en fait, franchir certaines limites et à transformer la politique en spectacle.
Gilles Finkelstein.
Oui, il est difficile de ne pas revenir sur cet événement parce que c'est un vrai événement et il est difficile d'y revenir parce que beaucoup a déjà été dit. Ce laisser-aller que vient d'évoquer Natacha, il est condamnable parce que c'est le président de la République et qu'il y a une dimension symbolique qui est attachée à sa fonction. Mais je suis désolé du truisme, mais il est condamnable en soi, c'est-à-dire on ne donne pas des gifles on ne donne pas des gifles à ses enfants, on ne donne pas une gifle à sa femme. Et donc, la condamnation, je trouve, elle doit faire réfléchir aussi au-delà. Deuxièmement, c'est un incident de l'ère numérique.
Pourquoi ?
On a tout vu grâce au numérique. Les journalistes étaient peu présents, et même je ne suis pas sûr qu'ils étaient présents. Et donc, c'est par la multiplication des vidéos des citoyens que l'on a pu reconstituer cet événement. La question est de savoir si rien ne serait arrivé sans le numérique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien entre la violence des réseaux et le passage à l'acte? Jusqu'à présent, les études qui étaient faites montraient que ce n'était pas le cas. Et maintenant, on a vu, maintenant, de semaine après semaine, au-delà du cas du président de la République, une connexion entre ce qui se passait sur les réseaux sociaux et ce qui se passait après dans le monde réel. Deuxième remarque, c'est un incident qui s'inscrit dans un contexte sociétal qui est celui d'une forme de violence politique. On l'a vu aux États-Unis avec le Capitole, on l'a vu en France avec le président de la République, mais on l'a vu au-delà avec les permanences des élus, on l'a vu avec les journalistes. Il y a une montée de la violence politique avec une banalisation de la violence verbale sur les réseaux sociaux et une légitimité de la violence physique qu'on avait vue au moment des Gilets jaunes. Et c'est ce en quoi ce geste fait sens également. Vous vous souvenez que...
Mais est-ce qu'il avait... fait sens? Damien Tarel, on a quand même trouvé chez lui Mein Kampf, des armes. C'est pas un citoyen ordinaire ou...
Non, ce n'est pas un citoyen ordinaire, mais le fait qu'il n'y ait qu'une moitié des Français qui désapprouvent totalement l'usage de la violence pour faire valoir ses revendications est un fait de société. Et enfin, je termine par là, c'est un incident qui arrive dans un moment politique. Vous avez parlé de Zadig, le président de la République, après les mots à les images, il va sur le terrain. Sa crainte, vraisemblablement, est que cette gifle colore l'ensemble de son déplacement, et elle intervient dans un moment dans lequel il y a un regain de popularité du président de la République, et sa crainte aussi, et c'est pour ça qu'il cherche à minimiser et à banaliser cet événement, c'est que ça vienne réactiver ce qui existe par ailleurs, qui est une intensité de rejet qui est forte dans une partie de la population. Je ne sais pas si vous avez remarqué la formule qu'a utilisée Damien Tarel lors de son jugement. Il a parlé du dégoût. Or, lorsque nous avons interrogé les Français sur les sentiments qu'ils éprouvaient vis-à-vis d'un certain nombre de personnalités politiques, ce qui ressortait pour Emmanuel Macron était une intensité très forte de mots négatifs, dont le même mot, le dégoût, auquel s'ajoutait la honte, la colère et le désespoir, et c'est cette réactivation que craint aussi le président de la République.
Natacha.
Oui, premier point, pour ce qui est en effet de la violence que subissent les individus en général, en effet, cette gifle est certes symboliquement extrêmement forte, mais il y a des représentants, des incarnations de l'autorité ou des institutions qui s'en prennent tous les jours. C'est-à-dire que cette gifle est un franchissement des limites, mais le franchissement des limites, il est le fait de ceux qui frappent des professeurs, de ceux qui frappent des policiers, de ceux qui frappent des médecins, des infirmières, des soignants dans les hôpitaux, des pompiers qui les caillassent. Et c'est vrai que beaucoup de Français vont avoir l'impression qu'on en fait beaucoup sur cette gifle, alors que eux subissent en permanence cette violence, à laquelle s'ajoute une violence sociale qui, là aussi, est extrêmement puissante, c'est-à-dire que le système économique et social, dans sa forme destructrice, inflige une violence qui n'est pas du même ordre et qui n'a pas ensuite à donner lieu à une violence physique. C'est d'ailleurs un vieux problème politique. La violence politique, la violence est-elle légitimée par la violence du système ? En démocratie, la réponse est non.
Damien Tarel a admis à l'audience avoir frappé le président de manière impulsive.
Oui, bien sûr, et c'est pour ça que je disais que c'était une libération des pulsions, et que je le répète, ça relève d'une déstructuration de la société. Pourquoi ? Justement parce que ça signifie que nous sommes confrontés à des problèmes qui ne devraient pas exister en démocratie. Que des rois aient été haïs, conspués, qu'il y ait eu des crachats sur le passage des cercueils, c'est une chose. Mais nous sommes en démocratie face à un président qui est censé incarner la volonté du peuple. Et tout le problème est qu'on voit bien à quel point c'est cela qui ne fonctionne plus tout à fait et qui donne lieu à ce que Gilles appelait le dégoût. En effet, c'est un sentiment qu'on voit s'exprimer assez souvent. C'est profondément dangereux et je ne pense que ce n'est pas réductible à une violence d'extrême droite. Oui, on a trouvé Mein Kampf chez le camarade de Damien Tarel. Oui, il y a une espèce de substrat d'extrême droite, c'est vrai.
Il y a le monarchisme avec le crime montjoie Saint-Denis.
Oui, même si c'est surtout le fait de quelqu'un qui est fasciné par le Moyen-Âge, ça ne signifie pas qu'il ait une idéologie structurée monarchiste. En fait, le problème, c'est que justement, que ce n'est pas une idéologie politique structurée, mais quelque chose de diffus et qui est en train de sortir du champ démocratique de la raison.
Gilles.
Oui, il est probable que ce soit surtout une déstructuration idéologique et personnelle assez, assez profonde. Il y a la question du passage à l'acte, et il y a l'autre question qui est de savoir, sans le passage à l'acte, mais quelle est la réaction qu'ont eu les Français en voyant cet événement. Et les condamnations ont été très importantes, et je pense qu'énormément de Français ont été choqués, mais j'ai été frappé dans l'Institut de sondage Odoxa a publié une enquête hier, dans laquelle, sur cet événement, il regardait les émoticônes qui étaient associés sur les réseaux sociaux. Et quand vous regardez, il y a quand même beaucoup de sourires et d'émoticônes qui ne traduisent pas seulement une réprobation.
Ça, c'est étonnant. Et ça en dit long. Et on peut donc, non mais je fais état de ma stupeur, on peut aujourd'hui, dans les études d'opinion, étudier les émoticônes, les emojis qui accompagnent les commentaires sur les réseaux en ligne.
Oui.
C'est magique.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Est-ce que nous voulons que la nation française, par rapport aux grandes autres nations, l'Allemagne, les États-Unis, continue, comme c'est le cas depuis des années, à s'appauvrir relativement, c'est-à-dire qu'elle gagne un peu moins de richesse, un peu moins de niveau de vie, ou est-ce que nous voulons au contraire que vos enfants, mes enfants, aient un meilleur niveau de vie que nous? C'est ça l'enjeu. Et pour ça, il y a une seule réponse, c'est que nous augmentions notre volume global de travail.
C'était Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui ce mercredi reprenait le sujet explosif des retraites qui était au cœur de l'actualité avant que le Covid ne débarque dans nos vies. Est-ce que ce sujet a vocation à revenir dans le débat public avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron? Gilles, c'est assez curieux de voir le ministre de l'économie assurer que le problème financier restait entier alors que nous sommes malgré tout encore à l'heure du quoi qu'il en coûte et que les sommes mise en œuvre pour traverser la crise et la pandémie semble considérablement supérieure à ce qu'il faudrait pour ramener les déficits à l'équilibre.
Je trouve bien que le ministre des Finances évoque explicitement cette question parce que depuis plusieurs jours, la forme de ce débat était un peu trop contournée. On le disait sans le dire, on le laissait entendre, le président de la République organisait ce qui ressemble quand même à une fausse consultation puisqu'il considérait justement que sa tournée sur le terrain permettrait de se faire une idée sur la réforme des retraites. Il entretenait un faux suspense en liant cette réforme et les décisions difficiles qu'il devrait prendre à sa candidature. Donc je trouve la forme était un peu déplaisante et le moment, honnêtement, me semble peu approprié. Ce n'était pas dans le mandat du président de la République, puisqu'il a même affirmé exactement le contraire, non pas sur la réforme systémique, mais sur le relèvement de l'âge à la retraite. On sort de la pandémie, il y a des déficits partout. Pourquoi s'attaquer spécifiquement à celui-là et pas aux autres? Et tous les partenaires sociaux, vous l'avez remarqué, y compris la CFDT, y compris le MEDEF, y sont opposés. En réalité, ce dossier qui est souvent un dossier très technique et très complexe, en l'espèce, est un dossier exclusivement politique et extrêmement simple. On peut débattre du bilan de la première partie du quinquennat d'Emmanuel Macron, savoir s'il a fait beaucoup de réformes ou pas, si ces réformes sont bonnes ou pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que il garde une image réformatrice, on l'a vu dans la première vague du panel électoral que nous avons lancé. Les Français continuent de considérer qu'Emmanuel Macron, selon la formule, veut vraiment changer les choses. Mais il lui manque des mesures réformatrices qui viennent illustrer cette image. Il a besoin, en cette fin de quinquennat, en tout cas il considère qu'il a besoin de réactiver cette image-là. Il y avait la réforme de la fonction publique qui aurait pu remplir cet office, et c'est à ça que doit répondre la réforme des retraites. J'ajoute un tout dernier mot, c'est pas seulement l'image réformatrice, c'est plus politique encore dans la mesure où cette réforme, si elle se limite à une mesure d'âge, elle a une cible, c'est toujours la même, c'est l'électorat âgé des républicains qui, eux, sont massivement favorables à ce que les actifs travaillent davantage, et ça clive avec Marine Le Pen, dont on oublie qu'elle est favorable au retour à la retraite à 60 ans.
Natacha Polony.
Oui, je crois que Gilles vient fort bien de résumer le problème politique et d'esquisser le problème, j'allais dire, idéologique, à savoir que ce sont ceux qui ont refusé mordicus toutes les réformes des retraites qui maintenant trouvent ça formidable quand ça ne les touche plus. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais en effet, c'est un sujet éminemment politique. Il s'agit d'expliquer qu'Emmanuel Macron peut réformer. Et c'est une vision du problème qui, mais ça on l'a déjà dit lors des débats sur au moment où la réforme était lancée, c'est une vision du problème qui en fait occulte volontairement des pans entiers du raisonnement. L'extrait que vous avez passé à l'instant avec Bruno Le Maire disant qu'il faut que nous augmentions notre volume global de travail, devrait tout de même nous inciter à réfléchir en effet à ce que ça signifie augmenter notre volume global de travail. C'est-à-dire que ce qui empêche que les retraites soient à l'équilibre, c'est le chômage de masse. C'est le fait que nous avons un problème, en effet, de désindustrialisation du pays. Ce n'est pas le fait d'obliger les gens à travailler plus longtemps, ou surtout, puisqu'en fait la conséquence ce sera ça, de rogner sur les pensions de retraite, qui va permettre de sortir de là. Or, le dernier rapport du COR le montre, ce qui va s'enclencher à partir de maintenant, c'est une baisse des pensions de retraite, c'est-à-dire un appauvrissement des retraités. Il ne semble donc pas que d'amplifier ce phénomène soit une véritable réponse.
Mais ça, de fait, effectivement, le Conseil d'orientation des retraites mardi. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que cette réforme ou ce système universel qu'avait mis en avant le président de la République, ce système a été adopté par l'Assemblée nationale. Enfin, et ils ont eu recours au 49-3. C'est curieux. En mars 2020, c'était donc un projet qui a été stoppé net par la pandémie lui aussi. Mais je ne comprends pas, en fait, est-ce que s'il fallait reprendre la machine là où elle s'était arrêtée?
Ah, ça aurait été une option. Ça aurait été une option. Manifestement, le président de la République a intégré les difficultés, à la fois les difficultés techniques à mettre en place ce système et les difficultés de perception de l'opinion. Tout ça, ça veut dire quoi, en fait?
A été adopté en première lecture.
Il a été adopté en première lecture, mais il ne vous a pas échappé qu'un texte adopté en première lecture doit encore aller au Sénat, revenir à l'Assemblée nationale, que le travail parlementaire n'était pas achevé. Tout ça veut dire quoi? Ça veut pas dire du tout que la question des retraites ne se pose pas. Ça veut dire, je crois, que c'est un excellent débat pour la campagne présidentielle.
Natacha, d'un mot ?
En effet, si nous pouvions enfin avoir ce débat de manière apaisée et de la part de politiques qui, cette fois-ci, s'engageraient plutôt que de faire une fois au pouvoir le contraire de ce qu'ils avaient promis pour séduire tel ou tel électorat, je pense que nous aurions progressé.
Avant le débat, le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Aujourd'hui, je ne suis pas candidat parce que je ne suis pas candidat à la multiplication des candidatures. Il y en a déjà beaucoup trop. En revanche, je suis disposé à travailler une candidature unique de la gauche et je suis disponible pour cette perspective. Comme je le disais, le pays est à droite sur le régalien et à gauche sur l'économique et sociale. Il va bien falloir qu'on ait une sorte de politique mixte. Si ce n'est pas le cas, le Bloc populaire s'éloignera, se jettera dans les bras de la famille Le Pen. Voilà ce qui nous menace.
Arnaud Montebourg, aujourd'hui entrepreneur, ancien ministre de l'économie, créateur du mouvement citoyen L'Engagement, qui était l'invité de France Inter jeudi matin chez Nico et Léa, et il donc annonçait sa non-candidature à l'élection présidentielle, et je ne sais pas comment le présenter. C'est une non-déclaration, Natacha?
Il y a deux choses dans les propos d'Arnaud Montebourg, dans la tribune qu'il a publiée dans Le Monde. Il y a la question purement politique. En effet, Arnaud Montebourg n'a pas les troupes, n'a pas l'argent. Or, de nos jours, pour se présenter à l'élection présidentielle, si l'on est un tant soit peu lucide, il faut des conditions, et ces conditions sont assez lourdes, c'est-à-dire que si on n'a personne derrière, pas d'appareil, c'est extrêmement compliqué. Et ceux qui citent Emmanuel Macron en expliquant qu'il a surgi de nulle part, oublient que non, il n'a absolument pas surgi de nulle part, et que on a la possibilité de créer un appareil quand on a derrière soi tout un réseau, en fait, de soutien. Donc Arnaud Montebourg dresse un bilan, il n'a pas cela. Pour autant, la lecture qu'il fait de la situation politique est tout à fait intéressante. Et elle est, je pense, tout à fait justifiée. C'est-à-dire que, alors il le résume d'une façon qu'on peut contester. La France serait à droite sur le régalien, à gauche sur le social et l'économique. Nous avons eu ce débat il y a quelque temps avec Gilles sur la question de la supposée droitisation de la France. Et de fait, sur les questions économiques et sociales, il y a une demande de protection, c'est ça qu'analyse Arnaud Montebourg, et sur le régalien, il y a aussi une demande de protection. C'est-à-dire que ce que met en avant Montebourg, c'est la demande de reprise en main de leur destin par les citoyens, ce qu'on peut appeler la souveraineté, même si le mot n'est pas compris, et de présence de l'État pour réguler et protéger. Or, il n'y a pas d'offre politique qui englobe
mais
la totalité des dimensions de ce problème.
La France d'aujourd'hui.
Non, mais ça décrit tout à fait la France d'aujourd'hui, mais ça décrit aussi le fait qu'il n'y a pas d'offre politique qui réponde à ça, qui couvre ce prisme-là.
Gilles Finkelstein.
Arnaud Montebourg vient de réaliser ce qu'on appelle en communication une vraie séquence médiatique. Son mérite est de ne pas l'avoir fait simplement pour avoir une présence médiatique, mais parce qu'il y a en l'espèce, du contenu politique. Il dit des choses claires sur Jean-Luc Mélenchon, problème pour la gauche, il dit des choses claires sur la gauche et sur cette difficulté sociologique avec les classes moyennes, et il propose...
Enfin, il dit qu'il a voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017, alors qu'il faisait campagne pour Benoît Hamon.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas des contradictions, et je vais venir, mais il dit des choses claires, il propose... non pas des mesures, mais une orientation, ce qu'il appelle l'unification du bloc populaire autour d'une force républicaine, et il esquisse ce que serait cette force républicaine, hein, le travail plutôt que la redistribution, l'industrialisation et notamment le nucléaire, la souveraineté, voire une forme de souverainisme, l'immigration contrôlée, et un État moins bureaucratique. Bon, tout ça, je trouve, n'est pas inintéressant. La question est de savoir, est-ce qu'il y a un débouché, ça me semble totalement improbable, pour les raisons qu'a évoqué Natacha, qui tiennent à lui, qui tiennent aussi au fait que je ne vois pas comment Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat à cette élection, mais aussi, pour le coup, et c'est là je trouve qu'il y a une sorte de confusion, je ne comprends pas en réalité quelle est la cible électorale. Mais ce concept du bloc populaire opposé à un bloc bourgeois et à un bloc réactionnaire, je trouve que c'est assez difficile d'en comprendre réellement les contours. Je termine par un dernier point. Si le débouché me semble improbable, le débat mériterait d'aller un peu plus loin. Et là, Arnaud Montebourg pourrait jouer un rôle utile. Quand il dit une immigration contrôlée, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Est-ce que il considère qu'il y a que les critères d'entrée, les différents modes d'entrée sur le territoire sont aujourd'hui trop souples et qu'il faut les revoir? Est-ce que ce sont les conditions d'expulsion de ceux qui n'ont pas eu, par exemple, le droit d'asile? Donc là, il faut qu'il en dise davantage. Sur le nucléaire, quel mix énergétique, quel rapport entre le nucléaire et les énergies renouvelables? Donc qu'il aille plus loin sur le fond, ça serait un service pour le débat.
D'un mot sur le fond, en effet, ensuite ça mérite d'être creusé et d'être précisé dans des mesures. En revanche, vous demandez quelle est la cible électorale, mais la majorité des citoyens, et c'est bien ça ce qu'il vise. Quand il explique qu'il veut réunir, en gros, les classes populaires, les classes moyennes, ceux qui produisent, c'est bien de cela qu'il s'agit, et c'est potentiellement majoritaire, sans offre.
Juste une phrase. Quand il dit le bloc,
avant le débat avec
le bloc populaire, et qu'il y a les déclassés, les déracinés, mais aussi la bourgeoisie d'intérêt général, en quoi c'est le bloc populaire, franchement?
La bourgeoisie qui croit encore qu'il ne faille pas que les élites fassent sécession. C'est assez simple, en fait.
Le grand face-à-face continue avec le débat en compagnie du géographe Jacques Lévy.
France Inter. Le grand face-à-face. Le débat.
Le débat du week-end, quels seront les enjeux des élections régionales? Le scrutin aura donc lieu, vous le savez, les 20 et 27 juin prochains. Nous en parlions samedi dernier, le président de la République évoquait sa France et la richesse de ses territoires, ce qu'il cherche à mettre en avant au cours de ses déplacements des derniers jours et d'une série de voyages qui doivent se poursuivre dans les semaines qui viennent. Les territoires, les régions, une une carte sensible de la France. La géographie est-elle éminemment politique? Nous voulions en parler justement avec l'un de nos grands géographes. Il est directeur de la chaire Intelligence spatiale de l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Plusieurs de ses ouvrages sont devenus des classiques et le dernier, L'humanité, un commencement, paraissait récemment chez Odile Jacob. Bonjour Jacques Lévy.
Bonjour.
Et bienvenue. Juste pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire un territoire? Il y a une sorte de glissement sémantique ces derniers mois, ces dernières années. Expliquez-nous.
Oui, il y a quelques années, avec Michel Lussault, nous avons dirigé un dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés. Et il y a l'entrée territoire et il y a 9 définitions. Donc, j'ai du mal à répondre à votre question. Ce qu'on voit actuellement, c'est que le mot territoire a tendance à former un couple avec métropole et donc à faire revivre l'opposition Paris-Province. Hein. Donc, c'est un vieux démon, je dirais, de la vie politique française qui consiste en une métonymie, en fait, consistant à considérer que les Parisiens, c'est l'État. En fait, donc de mélanger, de dire Paris, quand on dit, ben, par exemple, je sais pas, Téhéran a décidé que, c'est pas la ville de Téhéran, c'est le gouvernement iranien. Et donc, on fait la même chose avec la France, alors que le paradoxe, c'est que les Parisiens sont les moins puissants des citoyens, puisqu'il y a encore une présence de l'État central dans la gestion de la ville de Paris, surtout de l'aire urbaine de Paris.
On va en parler justement, voilà, parce que c'est intéressant.
C'est amusant de voir cet écart énorme entre les représentations classiques consistant à considérer aussi que les habitants des grandes villes, donc maintenant c'est les métropoles, ça traduit aussi quelque chose d'intéressant, c'est le fait que les grandes villes ont émergé comme acteurs, ce qu'elles n'étaient pas il y a 50 ans. Hein. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne dit plus, qu'on dit moins Paris-Province.
Mais pourquoi est-ce que c'est une manière de faire de la politique qui non seulement oppose, mais hiérarchise, à savoir le territoire, le local? Et forcément, du côté du bien, on est forcément du côté de quelque chose de plus positif que dans les métropoles.
Oui, il y a cette idée classique, physiocratique, je dirais, qui consiste à considérer que, en fait, les citadins ne produisent rien, mais captent les richesses. Hein. Donc, quand on dit, par exemple, que l'Île-de-France produit 31% du PIB de la France, souvent, c'est assorti de l'idée que, en fait, c'est pas eux qui l'auraient produit, parce que la production, pour les physiocrates, c'est l'agriculture. Alors, ça s'est élargi à l'industrie, mais on considère, en fait, que c'est pas une vraie production. Donc ils captent. Alors qu'en réalité, si on regarde la circulation géographique de la valeur en France, si vous enlevez les 11 principales, donc Paris et les 10 principales villes qui ont plus de 700 000 habitants dans leur aire métropolitaine, en fait, vous basculez dans des zones qui sont déficitaires, c'est-à-dire qui reçoivent plus par la redistribution qu'elles ne produisent. Donc c'est exactement l'inverse, mais en fait, la mythologie de la ville prédatrice est toujours là.
Natacha Polony, puis Gilles Finkelstein.
Moi, ce qui me frappe surtout, c'est le fait que qu'on a vu émerger seulement depuis quelques années ce questionnement sur la géographie et sur le fait que les inégalités sociales avaient désormais une traduction géographique. 80% des emplois créés en France sur les 10 dernières années l'ont été dans les métropoles. C'est-à-dire que l'idée est surtout qu'en fait, la richesse, de fait, est parti dans les métropoles, que le capital attire le capital et qu'il y a une désertification. Est-ce que le problème ne vient pas du fait que face à une géographie donnée, le rôle de l'État est justement de rééquilibrer? Parce que quand on se trouve dans un territoire qui n'a pas de services publics, qui a été désindustrialisé, qui se vide de sa substance, on ne peut pas exercer sa liberté de la même manière que dans d'autres pays. La question, c'est celle de l'aménagement du territoire, non ?
Là, je vois que vous faites quand même un glissement entre industrie et production. Effectivement, la part de l'industrie est de moins en moins importante. Ça ne veut pas dire que le tissu, je dirais, de la société française ou l'espace de la société française se dévitalise. Et quand on parle des campagnes, puisque vous faisiez allusion à la désertification, en fait, il y a vraiment deux catégories de lieux, de communes. Il y a celles qui ont énormément progressé, et c'était un phénomène nouveau, parce que les communes rurales, pendant tout le 19e siècle, perdaient vraiment presque toutes de leur substance. Et aujourd'hui, avec le périurbain, qui a commencé massivement, disons, dans les années 90, on a en gros la moitié des communes qui ont progressé, c'est-à-dire dont la courbe a remonté. Donc c'est des communes qui sont parfois considérées, à tort à mon avis, comme rurales, qui font partie des systèmes urbains et qui, elles, ont énormément progressé démographiquement et économiquement. Et puis il y a une autre partie qui comprend maintenant à peu près 5% de la population qui est, elle, en déclin. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame. C'est-à-dire que, globalement, si les villes sont plus productives, quand vous dites le capital va au capital, bon, j'ai l'intuition d'un complotisme diffus.
Ah, c'est pas du tout du complotisme, si, le capital, c'est une règle économique.
Qui s'organiserait, mais non.
Règle économique. C'est d'où l'intérêt de la régulation.
Alors, le capital ne va pas au capital. Le capital va aux endroits qui produisent beaucoup.
Où il y a déjà de la richesse.
Non, parce que en effet, si vous regardez l'histoire des villes, il y a plusieurs cycles et il y a eu toute une période de l'histoire urbaine, en gros industrielle, correspondant à la révolution industrielle, mais qui touchait aussi beaucoup l'industrie, où les villes étaient intéressantes comme marché d'emploi, marché de consommation. C'est-à-dire, c'était la masse urbaine qui, en effet, jouait le rôle d'attracteur. Aujourd'hui, on a un phénomène nouveau. Le précédent n'a pas complètement disparu, mais il y a peu d'industrie maintenant dans les grandes villes. Mais c'est en fait le nombre de liens, c'est la part créative en fait du système productif qui est de plus en plus importante avec le rôle de la science et de la technologie et le fait que le milieu urbain est un milieu innovateur et d'autant plus qu'on est dans une grande ville parce qu'il y a plus de diversité. Donc je trouve que c'est un peu réducteur de dire le capital va au capital. Non, en fait les grandes villes connaissent un nouveau cycle productif et l'écart, je dirais, entre les grandes villes et les autres a plutôt tendance à s'accroître, mais c'est pas parce qu'il y a des méchants et des gentils,
mais j'ai jamais
c'est
dit
parce
qu'elles ont un avantage comparatif. C'est un constat économique, c'est-à-dire que les investissements se font là où il peut y avoir une amplification de richesse, c'est exactement ce que vous venez de dire, là où il y a de la créativité.
Parce que les citadins produisent.
Donc ma question, c'est le rôle de l'État derrière, c'est comment l'État rétablit de l'égalité entre les territoires.
Alors là, régulation. Je ne sais pas si je peux encore répondre.
Bien sûr, c'est
mais,
le principe même
mais
de
effectivement,
l'échange
et on là, c'est la bonne question. Et alors, en gros, je pense qu'on est en train de changer aussi d'époque de ce point de vue-là. C'est-à-dire que on atteint un peu les limites de ce que la redistribution peut donner. C'est-à-dire que on a un socle maintenant d'État-providence qui est extrêmement solide, qui est peut-être en France le plus puissant du monde, hein, avec des prélèvements obligatoires et de la dépense publique record. Et ça a permis la désexclusion d'une masse considérable de gens. Donc c'est un socle que, au fond, personne ne peut remettre en cause. En revanche, en termes de développement, il n'est pas du tout certain que ajouter un point de PIB dans la redistribution, ça produise du développement. Et donc c'est l'idée d'un développement endogène, en fait. Les success stories, c'est pas la redistribution qui les a permis, c'est le fait qu'il y ait une mobilisation d'acteurs locaux ou régionaux qui ont permis de développer des projets. Le bassin minier dans lequel je travaille, puisque je suis professeur à Valenciennes, en fait, on a mis beaucoup d'argent dans la redistribution et ça n'a pas permis le développement. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à d'autres manières, donc pas seulement redistributive. Donc l'État peut jouer un rôle,
mais
pas forcément.
Les infrastructures, c'est pas de la redistribution. L'aménagement du territoire, c'est pas de la redistribution. Enfin, pardon, je laisse Gilles poser sa question.
Gilles, j'aimerais qu'on passe dans des enjeux des régionales.
L'évoquait tout à l'heure, le président de la République a livré dans une longue interview à la revue Zadig son récit, sa vision géographique du pays, mobilisant à la fois ce qu'il a vécu, parfois l'histoire, parfois la géographie, parfois la démographie. Est-ce que vous avez eu, vous, comme lecteur géographe de cette interview, le sentiment que ça correspondait à la vision que vous avez du pays ou que c'était une vision très intime, voire rêvée du président de la République?
Jacques Lévy.
Oui, c'est une vision subjective. Emmanuel Macron parle d'espace vécu, hein, d'ailleurs, une notion qui a été utilisée en géographie. Donc une géographie subjective. Carte sensible. Donc évidemment, c'est une réalité. On pourrait dire, si on si on voulait un peu rire, hein, que c'est un peu le, vous n'avez pas le monopole du cœur, et donc c'est comme si Emmanuel Macron disait vous n'avez pas le monopole du territoire, parce que vous vous souvenez de ce qui plane sur les identités spatiales, c'est l'idée que il y en a les bons qui en auraient une, c'est les gens qui habitent dans les petites villes et dans les campagnes, et puis les gens qui habitent dans les métropoles, eux c'est des anywhere soi-disant, c'est-à-dire des gens qui s'en fichent complètement de l'endroit où ils habitent. Et donc Emmanuel Macron qui
et
est
ça c'est un vocabulaire qui avait été largement repris par Philippe de Villiers par exemple.
Clairement. C'est intéressant comme questionnement. Je crois que ça ne correspond pas du tout à la réalité, y compris très pratique, parce qu'en fait, les gens qui aujourd'hui habitent dans les campagnes, c'est-à-dire essentiellement le périurbain, c'est des gens qui choisissent plutôt des habitats génériques. En fait, le modèle américain s'étant peu à peu implanté en Europe, c'est-à-dire qu'en fait, on choisit un type de lotissement qui a un certain nombre de caractéristiques, et quand on déménage, on va choisir le même type. Les Américains, les Nord-Américains sont très mobiles. Ils vont sur le net choisir un lotissement qui est similaire. Et donc on a quelque chose de similaire maintenant en Europe, avec le fait que les gens qui habitent dans le périurbain en général n'habitent pas là où habitaient leurs ancêtres. Hein, donc c'est plutôt eux les gens du anywhere. Alors que l'attachement, je veux dire, une des caractéristiques des métropoles, c'est qu'elles sont extrêmement singulières et pour des raisons de nécessité. C'est-à-dire que si elles ne créent pas des avantages comparatif nouveau, une excellence qui n'existe pas dans la voisine, enfin dans la voisine qui peut être à plusieurs milliers de kilomètres, eh bien elles ne réussissent pas. Donc en fait, le somewhere, il est plutôt dans les métropoles et l'anywhere ailleurs. Donc quand
quelque part, paradoxalement, s'incarne davantage dans les grandes villes que dans ces zones de la France périphérique, comme on l'a dit. J'aimerais vous poser une question justement sur cette question de l'identité dont on a eu souvent l'occasion de parler avec Natacha et Gilles. Il y a des élections régionales. Quand vous, par exemple, vous venez de Hauts-de-France, vous venez avec quel gentil, on dit comme ça ? Comment est-ce qu'on appelle les habitants des Hauts-de-France ?
Je ne sais pas. Voilà. On a appris avec la pandémie que les chercheurs parfois osent dire « je ne sais pas ». C'est trop rare.
Non, mais parce qu'il n'y a pas de nom qui accompagne la région, et c'est assez intéressant parce que je voudrais qu'on s'intéresse aux enjeux des élections régionales. Il y a très peu de régions aujourd'hui en France, dans la France métropolitaine, dans les 13 de la France métropolitaine, où on peut tout simplement dire « je suis », je sais pas moi, comme on pouvait dire avant, « je suis auvergnat », je suis...
Il y a aussi, Natacha, pour aller plus loin, pour poursuivre cette question-là, quand on discute avec des gens sur la façon dont ils vivent ce qu'a été la réforme territoriale de François Hollande, il y a un problème énorme, c'est-à-dire qu'on constate immédiatement, en fait, à quel point le découpage administratif a été décorrélé de toute forme à la fois d'histoire, de géographie et de vie réelle, c'est-à-dire d'air géographique, de bassin d'existence. Un exemple, les habitants de Tulle ou de Guéret doivent se tourner vers Bordeaux pour leurs démarches administratives, les habitants d'Aurillac doivent aller à Lyon, alors qu'il y a, et ils le disent eux-mêmes, ils disent c'est aberrant, il y a une même entité, on va dire, du Massif central, des problématiques qui peuvent être proches, et ils ont l'impression d'avoir été privés de ça. Alors comment s'articule l'administratif, les aires de vie, les bassins économiques, est-ce qu'il doit y avoir une cohérence ou est-ce que c'est pas grave ?
Jacques Lévy.
Alors, cette réforme du découpage des régions, elle a eu beaucoup de défauts. Elle était très technocratique à différents points de vue. C'est-à-dire, d'une part, on n'a consulté personne. François Hollande voulait démontrer qu'il était capable de réformer. Hein, c'était déjà une idée qui pouvait compter. En tout cas, lui il le pensait. Et par ailleurs, il a été animé par un modèle assez irrationnel, qui consiste à dire qu'il fallait qu'il y ait à peu près la même quantité de gens dans toutes les régions. En réalité, si on regardait, enfin, disons, faudrait savoir ce que c'est qu'une région. Si on considère qu'une région, c'est en fait un espace biographique, c'est-à-dire en fait, vous grandissez dans un lieu, quel est le plus petit espace dans lequel vous pouvez avoir l'ensemble des opportunités qui vont vous permettre de réaliser une vie telle que vous la désirez ou que vous la désirerez d'ailleurs, hein, parce que vos désirs peuvent changer. Et donc, à ce moment-là, il n'était pas complètement absurde, je dirais même que c'était assez logique qu'il y ait l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'effectivement, dans ces opportunités, il y a l'existence d'une métropole. Et les gens de Guéret, peut-être que ça peut les aider, qu'il y ait Bordeaux. Je dirais que Bordeaux se rapproche d'eux et de les gens de Clermont-Ferrand. En fait, ça fait longtemps qu'ils vont à Lyon pour aller au match, par exemple. Hein. C'était une sénatrice de Clermont-Ferrand qui me disait ça. Donc
oui, mais ceux du bocage bourbonnais n'avaient pas vraiment l'habitude d'aller jusqu'à Lyon pour leurs formalités administratives.
Non, mais les formalités administratives, là, vous...
J'exagère parce que maintenant, elles peuvent être...
Vous croyez sous la Troisième République, là, hein. on va au chef-lieu de canton. Je veux dire, il y a eu une numérisation de l'État qui s'est quand même pas trop mal passée.
Ce que je voulais dire, c'était d'abord poser la question de l'identité.
À la capitale régionale pour...
Poser la question de l'identité pour savoir quels sont les enjeux, au fond, de ces élections régionales.
Voilà. Alors... Ils sont peu régionaux. Pardon, je répondais à une question qui m'avait pas encore été posée.
Par Gilles.
Oui, parce
c'était de la télépathie.
On a parlé de l'identité géographique. Vous êtes aussi un spécialiste de la géographie électorale. Et nous sommes donc à quelques jours de ces élections. Quelle est la logique du vote? En fait, ce que je trouve très frappant, on a vu dans les élections municipales, ce qui est toujours le cas, l'importance de l'implantation. Et on est avec ces régionales dans un scrutin un peu intermédiaire. Et il y a dans les sondages qui ont été commandés par France 3 et réalisés par Ipsos qui ont été publiés cette semaine dans chacune des régions, il y a un élément qui m'a énormément frappé, qui est la faiblesse insigne de la notoriété des candidats. Il y a très peu de candidats qui ont 60, 70, 80% de notoriété.
Évitons de les citer parce que nous aurons des contraintes ensuite pour rétablir les faits et nous devrions dire le nom de tous les candidats auxquels ils s'opposent région par région.
Oui, donc c'est pour ça que je ne cite personne.
Vous êtes admirable.
Et qu'en revanche, il y a énormément de candidats qui ont moins de 20% et parfois moins de 10% de notoriété et qui recueillent des suffrages importants. Donc quelle est c'est donc beaucoup plus un vote d'étiquette. Or, quand on voit les intentions de vote, on voit en même temps que ce vote d'étiquette ne correspond pas exactement aux rapports de force nationaux.
Oui, alors, une des caractéristiques de cette réforme que vous critiquiez, Natacha Polonier, à juste raison, c'est le fait d'avoir agrandi le périmètre des régions globalement, d'avoir affiché des ambitions importantes et de ne pas d'avoir donné les moyens correspondants. Hein. C'est-à-dire que la fiscalité, par exemple, ne permet pas de doter les régions des ressources. Par exemple, l'idée du développement économique, ça peut aller très loin en termes de moyens. Hein. Donc, et on pourrait aller plus loin aussi. Il y a cette idée aussi de la loi 4D actuelle que les entités, que les collectivités peuvent proposer aussi des extensions de leurs compétences. Ça c'est une idée nouvelle dans la gestion administrative et politique française qui est intéressante. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Donc ce qui explique que les citoyens des régions ne voient pas très bien à quoi ils pourraient s'accrocher, par exemple dans les bilans ou dans les projets. Ce qui me frappe, c'est que par exemple la sécurité est très à la mode, je dirais, dans le débat public, donc y compris dans ces élections.
Et ça ne fait pas partie des compétences des régions.
Et voilà. Et donc par exemple, un candidat propose une police régionale et en fait dans une région qui n'est pas une région, qui est une aire métropolitaine, hein, parce que l'Île-de-France correspond à peu près à l'aire urbaine de Paris. Et donc ce serait pas absurde qu'il y ait une police métropolitaine comme dans beaucoup de grandes villes des pays démocratiques. Et donc ce phénomène-là de dire je veux changer les régions, il est assez peu présent dans les professions de foi des candidats, en fait. Hein. Donc du coup, à la fois les régions sont peu puissantes et l'augmentation de leur puissance effective n'est pas vraiment centrale dans la campagne électorale. En revanche, je pense que ces élections sont pas seulement un galop d'essai de la présidentielle, comme ça a été souvent dit, mais on le voit bien d'ailleurs dans la discussion que vous avez eue précédemment, on voit bien qu'on est dans un moment qui continue le processus qui a commencé en 2017, hein, de recomposition de la vie politique autour de progressisme, conservatisme, réaction, totalitarisme, disons des cercles concentriques qui ne se réduisent pas au rapport gauche-droite, hein, donc qui sont compte tenu du fait que la gauche, j'ai écrit un article qui s'appelle Gauche et progressisme du pléonasme à l'oxymore. Au XIXe siècle, gauche et progressiste, c'était synonyme. pour des raisons qu'on n'a pas le temps d'analyser aujourd'hui, mais qui sont essentielles, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hein, donc il y a une orthogonalité entre le rapport gauche-droite et le fait d'être progressiste ou réactionnaire. Et donc il y a des réactionnaires qui sont dans un langage, dans un style de gauche, et des réactionnaires, il y a des complotistes, par exemple, dans un monde qui est classé à gauche, par exemple Jean-Luc Mélenchon, et des complotistes dans un monde classé à droite comme Marine Le Pen, et peut-être même des complotistes du centre avec Marianne, je ne sais pas.
Non, ça va. Mais je pense qu'il faudrait définir le terme complotiste, oui, pour en faire autre chose qu'un anathème politique. Mais parce que il y a certaines questions qui sont bonnes à poser, du moment qu'on n'est pas dans le délire, mais qu'on est dans le doute rationnel. Juste une chose, pour revenir sur cette question en fait du rapport entre l'organisation administrative, les identifications des individus et derrière la question démocratique. Je prends un exemple de, on a créé une euro-région, Alsace, sud du Palatinat, pays de Bade, ce qui semble parfaitement logique, je veux dire, les gens vivent ensemble, échangent en permanence, etc. En même temps, ça veut dire qu'on a quelque chose qui supplante l'État-nation, qui est le cadre d'organisation de la démocratie. Comment on fait coïncider, ou en tout cas s'articuler, les identités vécues des gens, l'administration et le cadre démocratique, sans qu'à un moment donné, ça se vienne se percuter.
Jacques Lévy. Bah,
là, vous semblez dire que le seul niveau démocratique, c'est le niveau national, je pense pas.
Je n'ai pas dit que c'était le seul. J'ai dit qu'il y a différentes strates démocratiques, ouais, mais ça. Que le cadre, pour l'instant, qui permet l'exercice le plus l'ample de la démocratie et qui permet de prendre donc certaines décisions, c'est ouais. Le cadre de l'État-nation. Pour l'instant, ça peut changer.
Mais bon, on voit une montée en puissance, je dirais, d'un État européen fédéral. Hein. J'utilise des mots qui sont un peu tabous, mais il faut dire les choses telles qu'elles se passent. Avec ce qui est intéressant et ce qui est nouveau, c'est que non seulement les compétences officielles augmentent, mais que les attentes des Européens vis-à-vis de leur État sont de plus en plus régaliennes. Hein. Ils veulent de la police, ils veulent de la défense, ils veulent aussi un État social européen. Donc je pense qu'on est dans une période d'émergence clairement d'une nouvelle strate, et le Parlement européen est un objet particulièrement démocratique, je dirais plus démocratique à certains égards que les parlements nationaux, qui sont pris dans l'histoire mythologique des États, dans le fait que les corporatismes pèsent énormément encore dans les choix politiques. On l'a bien vu avec le débat sur les retraites, alors que ce n'est pas le cas à l'échelle européenne. Et puis ce dont on parle aujourd'hui, même si ça avance en... La France est le seul État européen qui ne soit pas construit maintenant dans l'esprit fédéral. Hein. Il y a de la décentralisation, mais ça reste timide. Mais néanmoins, on voit bien la montée en puissance des deux autres niveaux, que sont les régions, on vient d'en parler, mais aussi le niveau local, un niveau local élargi avec finalement les communautés. Enfin, ça porte plusieurs noms, hein, ce qu'on appelle l'intercommunalité, les métropoles, etc. Oui. Ça, c'est quand même ce qui se passe. Et il y a en réalité un certain consensus pour dire que ces deux niveaux infranationaux, ils doivent se développer. Actuellement, ça représente 12% du PIB, hein, les finances non nationales, ce qui en laisse beaucoup pour la nationale. On pourrait imaginer un rééquilibrage, et le rééquilibrage, il est encore timide, mais il a commencé. Donc je dirais que les régions transnationales dont vous parlez, elles sont encore un truc un peu bizarre, mais qui correspond aussi au vécu, parce qu'il y a beaucoup de frontaliers, par exemple. En Sarre, on parle beaucoup le français, donc il y a aussi de bonnes raisons. Il y a tout ces agglomérations, j'ai vécu à Genève, et il y a un déficit clairement de gouvernementalité pour gérer des flux qui sont clairement transfrontaliers. Donc moi, j'y vois pas tellement une menace pour le niveau national. C'est plutôt un processus de relativisation, mais relativisation partielle, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui restent et qui vont rester, je pense, au niveau national.
C'était pas une menace, Gilles.
Alors je voudrais revenir sur votre lecture politique du territoire national. On a évoqué tout à l'heure cette fracture réelle ou supposée entre les métropoles et les territoires. Est-ce que les fractures régionales entre les différentes régions vous paraissent de nature à comprendre la réalité du pays? Vous parliez tout à l'heure la priorité pour la sécurité qu'on voit émerger fortement dans ces élections. Quand vous regardez région par région, quelle est la première priorité? Il y a une grande diversité. Il y a des régions dans lesquelles c'est l'environnement, il y a des régions dans lesquelles c'est le chômage, il y a beaucoup de raisons dans lesquelles c'est la délinquance. Quand vous regardez évidemment les rapports de force politique, il y a des différences. Donc est-ce que cette maille régionale permet aussi de lire le pays ?
Jacques Lévy.
Alors ça c'est une très forte question dont la réponse n'est pas triviale. En gros, il y avait les anciennes identités régionales qui étaient très statiques, qui étaient liées aussi à la relation avec l'État français, des régions notamment avec des identités linguistiques fortes qui étaient malmenées par l'État central. Et il y avait aussi des traditions, je dirais, par exemple, les bonnets rouges en Bretagne, indépendamment de l'identité bretonne, c'était une opposition de classe qui s'est en partie transmise à travers les générations. Aujourd'hui, ce qui a fondamentalement changé, c'est qu'on est dans une société d'individus qui notamment sont des acteurs spatiaux et qui choisissent beaucoup plus qu'avant où ils habitent. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a une société d'archipel où, pas au sens de Jérôme Fourquet, mais au sens où vous avez des îles qui sont les grandes villes. Et en fait, elles se ressemblent. Hein, c'est-à-dire être habitant du centre de Rennes, du centre de Lyon, du centre de Lille, il y a des ressemblances. Et donc, ça atténue les différences entre régions, mais qui se sont en partie recréées. C'est-à-dire que la Bretagne était un fief.
Il y a débat en régie pour savoir
clérical,
si
c'était... Et aujourd'hui, c'est plutôt... centre-gauche, progressiste, qui domine, quelles que soient les étiquettes en Bretagne. Donc il y a à la fois, les anciennes identités ont été affaiblies, mais je dirais aussi recomposées. Hein. Donc il y a des différences, c'est des différences qui sont plus faibles qu'avant et qui sont différentes.
On en revient à la question que je posais au début, la question de la coïncidence entre problématiques sociales et problématiques géographiques. On voit que ça se traduit dans le vote, pas seulement en France, mais aussi aux États-Unis, ailleurs. Est-ce que, malgré tout, il n'y a pas un problème d'inégalité de l'accès et donc une question démocratique dans cette différence entre métropole et reste?
C'est ça, en tout cas, et vous avez raison de revenir sur la question, parce que c'est bien, c'est pas des oppositions régionales. Hein. Si vous regardez la carte des États-Unis, en fait, à l'intérieur des États rouges, quand on regarde de loin, on pourrait croire qu'il y a les États rouges et les États bleus, mais en fait, toutes les grandes villes des États rouges ont voté Biden, comme elles avaient déjà voté Obama. Donc effectivement, c'est une géographie qui n'est pas une géographie de pavage, vous voyez, de territoire, mais une géographie plus complexe, plus réticulaire. Alors, pourquoi elle existe, hein, donc ça, c'est la grande question. Est-ce que c'est des inégalités qui sont réelles, pensées? Je pense qu'il y a une opposition entre capital de stock, capital de flux, hein, ce que Emmanuel Macron, dans son interview, dit identité non figée. Hein, donc, je pense que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui dit ne nous obligez pas à nous changer nous-mêmes. Parce que si nous perdons notre identité, ben à quoi ça servirait de changer? Comment évoluerions-nous le fait qu'il y a eu du progrès? Hein, et donc ça, c'est un vrai clivage qui existe dans tout l'Occident et qui est un énorme marqueur des votes. Hein, donc comment on va le saisir? Tout est là.
Pourquoi est-ce que parisien n'est pas un mot positif? Aucun président de la République, à part Nicolas Sarkozy, ne s'est dit parisien.
Oui, alors c'est vrai que l'histoire de l'État français avec son centralisme a fait que Paris, qui était une espèce de principauté appartenant directement à l'État, donc qui n'était pas gérée par les Parisiens, mais était perçue comme une force agressive vis-à-vis et prédatrice vis-à-vis des autres territoires. Aujourd'hui, les choses sont quand même assez différentes, et donc les Parisiens, qui sont plutôt maintenant les Franciliens, en fait, c'est... Ils sont pas si différents que les autres peut-être ne le pensent.
Parisien tête de chien, Gilles, ça reste les régionales des élections où il y a une très forte abstention. On peut espérer que ça change.
on peut l'espérer, mais on peut redouter que ça s'amplifie.
L'intelligence faciale poussera-t-elle les électeurs aux urnes, Jacques Lévy, d'un mot?
J'ai des doutes, mais j'espère que oui.
Mais écoutez, merci. On va terminer sur cette petite touche d'espoir. C'est la fin de l'émission. C'était passionnant. Merci Jacques Lévy. L'humanité, un commencement chez Odile Jacob, Natacha et Gilles, à samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Benjamin Orgeret. À suivre, les secrets d'info, comment le nudge a guidé Macron pendant la crise du Covid.